Nozières, les nymphes de ville d'Avray. Les gens qui ne voient pas clair affirment qu'il n'y a plus de créatures surnaturelles. Ils nient l'existence des fées et de toutes les déesses qui toujours ont habité la terre. Ils se trompent lourdement. Il est encore permis de surprendre Diane dans les bois. Il faut l'y chercher à une heure favorable. Il va sans dire qu'elle ne se montre pas au milieu du jour. Un sexe ne pense pas au regard sacrilège de la foule et elle redoute la brutalité des automobiles. Elle ne veut pas que ses grands lévriers soient écrasés par une 40 chevaux. D'ailleurs, quand Actéon la vit se baigner, la lumière était atténuée, et c'est au clair de lune qu'elle se penchait sur Endymion. Pour la rencontrer, il convient de se promener très tôt ou très tard. Et c'est comme toutes ses pareilles, elle est amie de l'aube et de la nuit. Oh, je n'étais pas allé à Ville d'Avray pour m'entretenir avec des nymphes, mais seulement pour goûter le charme du printemps. Les nouveaux rayons du soleil nous paraissent si doux. Il y a dans l'air je ne sais quoi qui nous réjouit et nous grise. Est-ce le parfum subtil des arbres fruitiers et des fleurs en fleurs? Nous éprouvons tous le besoin de respirer largement. Nous étouffons dans les rues de la ville. Il faut que nous ayons du moins l'illusion de la campagne et de la nature. Il n'est pas nécessaire de faire un long voyage. Autour de Paris s'étendent des paysages merveilleux. Il n'y a pas une ville qui possède une telle parure. Tous ceux qui ont roulé sur les routes pendant des semaines, sont émus d'une sainte admiration quand ils reviennent vers la capitale, comme les coteaux s'inclinent avec grâce. Quelle nuance dans les bois et la sinuosité du fleuve. C'est un chef-d'œuvre de goût et de mesure. Certainement, on trouvera ailleurs des couleurs plus riches, des points de vue plus sauvages, mais non une aussi pénétrante harmonie. Les étangs de Ville d'Avray ont le matin un charme incomparable. Les arbres qui les dominent et les abritent leur donnent de la sérénité. Ces hauteurs boisées sur leur créent une ombre religieuse. Sur l'autre rive, il y a des restaurants. Oh, l'un d'eux est illustre grâce à Alphonse Daudet qui conduisit Sapho et ses amis, mais en cette saison, à l'aube, ces établissements sont maintenant tranquilles. Il n'y a pas un mouvement qui trouble le calme de cet endroit. Des vapeurs traînent paresseusement sur l'eau. Seule l'agitation de la journée les pourra dissiper. La lumière argentée est encore presque nocturne. Or, tandis que je flânais, j'aperçus trois jeunes femmes qui formaient un beau groupe. Je dois avouer qu'elles étaient très légèrement vêtues, ce qui est contraire à l'hygiène et à la morale. Bon, cependant, leur parure me parut chaste. Elles ressemblaient à des divinités antiques que M. René Ménard trace place avec quelques rames dans les paysages. Et alors je crus tout d'abord que j'avais devant moi le modèle de peinture de ce peintre à l'âme hellénique. Je me disais, oh, sans doute, l'une va entrer dans l'eau et prendre l'attitude nécessaire. Elle sera recueillie, sereine, tandis que les deux autres danseront sur la rive. Mais c'est en vain que je tentais d'apercevoir l'artiste. Je le voyais par son chevalet, et je dus me dissimuler derrière un arbre pour ne pas effaroucher ces inconnus qui venaient vers moi. Elles étaient blondes, toutes les trois. Si un peintre les avait choisies, il est possible, probable, que l'une seulement aurait été blonde et l'autre brune et la dernière rousse. Ces réflexions m'empêcha de penser plus longuement que j'étais en présence de modèles. Elle disait, Iris, ma sœur, te souviens-tu? C'est ici qu'il venait. Oh oui, Chloé, c'est à là, c'est à cette même heure. Et comme il nous aimait, et comme nous l'aimions, Lydie. Il est rare que des modèles s'appellent Iris, Chloé, Lydie. On les nomme, elles sont même plutôt Georgette, Suzanne. Je fus sur le point de conclure que j'écoutais des femmes de lettres. Nul ignore que certaines d'entre elles se sentent un goût très vif pour l'antiquité. Et ces costumes. D'ailleurs, un grand nombre de mes contemporains montrent une dévotion particulière pour la civilisation hellénique. Il est fâcheux qu'ils adorent souvent Athènes afin de justifier certaines bizarreries d'habillement et des caprices inquiétants de leur sensibilité. Ils se cachent derrière le Parthénon. Mais je vis bientôt que Iris, Chloé et Lydie n'étaient pas des intellectuels, ni des déguisés, ni des détraqués. J'étais en présence de vraies bonnes nymphes, de trois nymphes authentiques. Elles s'étaient approchées de la petite fontaine qu'on appelle le souvenir de Corot, et elle regardait le médaillon qui évoque l'image du peintre. Ce n'est vraiment pas assez. On ne le reconnaît pas. On ne se rend pas compte de sa bonhomie. Il était si simple et si bon. Tu te rappelles, Iris? Tu te souviens, Chloé? Comme il nous aimait. Quand il venait le matin vers l'étang, il se hâtait de nous sourire. Mais depuis qu'il est mort et célèbre, d'autres paysagistes s'installent ici. Ah, nous en avons vu des peintres, des peintres. Ils copient les eaux, les arbres, le ciel. Il ne nous regarde pas. Ils ne nous aperçoivent pas. Ce n'est point leur faute. Ils pensent qu'on voit tout avec les... Et ils se vantent d'avoir de l'œil et de la patte. Notre cher ami possédait une autre vision. C'est pourquoi il nous découvrait. Et c'est pourquoi nous l'aimions. Nous déposions pour lui, nous disposions les brumes légères dont s'enveloppent les compagnons de Titania et d'Oberon. Oh, ce n'était pas le songe d'une nuit d'été, mais ce fut toujours le rêve d'un matin de printemps, d'une aube d'été ou d'automne. Ah oui, il nous aimait. Nous nous penchions sur son épaule sans qu'il s'en remarquât. Jetions sur la toile, presque achevée, une poussière impalpable, mystérieuse. Et le tableau devenait transparent, précieux, irréel. Et parfois, il ne pouvait se défendre contre un accès de joie, mais non pas d'orgueil. Il s'accordait cet éloge. « Oh, ce n'est pas mal !» C'est un homme qui accomplissait sans vanité sa besogne quotidienne. Il n'avait pas le désir du luxe. Il ne se souciait point de posséder un hôtel et de recevoir sur son yacht ou dans ses salons l'élite de la société parisienne ou les plus riches amateurs d'Amérique. Il n'avait pas de belles relations puisque il se contentait de notre camaraderie et de notre tendresse. Ainsi parlaient Iris, Chloé et Lydie, et je ressentais une grande vénération pour le peintre qu'elles avaient aimé. « Il aurait bien ri, reprit Chloé, si quelqu'un lui avait annoncé que certains de ses paysages seraient payés un jour des centaines de mille francs. Quoi ? Cette toile qu'il exécutait avec une belle tranquillité vaudrait une fortune. On la pourrait échanger contre une belle maison avec un grand jardin. Si nous lui avions annoncé un tel événement, il aurait haussé les épaules. Oh oui, il est heureux qu'il n'ait pas soupçonné cet avenir. Il aurait été moins sincère. Seuls les artistes qui ne sont point riches gardent de la fraîcheur et de l'ingénuité. C'est leur revanche. J'ai souffert cependant l'autre jour dans cette vente, salle des ventes aux enchères, quand on offrait aux amateurs le tableau de notre vieille amie. Je songeais aux belles matinées qu'il connut ici, loin du monde. Il peignait pour lui et pour nous. Cette adoration qu'il ressentait pour nous a aujourd'hui un cours. Ce témoignage de sa fidélité sont tarifiés. Ils entrent dans des collections. Il y a quelque chose de sacrilège là-dedans. Hélas, les objets du culte servent maintenant aujourd'hui d'ornement dans les salons. Les chasubles sont des couvertures pour le piano, et les châsses qui contenaient des reliques sont des coffrets à bijoux. On publie des lettres d'amour, on divulgue les secrets les plus intimes. Il serait donc vain de protester parce que on met en scène des tableaux que nous avons inspirés. Mais ces toiles sont un peu notre œuvre. Tu réclames des droits d'auteur. Il est cruel de penser que ces traces de communion avec nous sont devenues des marchandises. On demande 100 000 francs pour le souvenir de la nymphe. 110, 120, 200. Oui, c'est un prix. Mais ça ne te flatte pas? Tu n'es pas heureuse, fière de penser qu'on dépense des fortunes pour avoir notre reflet? Oui, qu'on aime réellement le reflet, qu'on peine à payer ce qu'on achète si cher. Mais non, non! Nous ne sentons plus autour de nous le candide amour que nous offrait chaque jour notre vieille amie. Elles s'inclinèrent devant la médiocre image du peintre, mais elles avaient des attitudes très belles. Mais un volet brutalement poussé claqua. À la fenêtre de l'hôtel voisin, apparut une montmartroise, au visage maquillé, aux cheveux fous. Elle criait: Albert, Albert, viens voir! Des dames qui semblent venir du bal des Khazars! Les nymphes poussèrent trois petits cris et s'évanouirent. Un grand gaillard arrivait près de la montmartroise. Où donc sont-elles? Y a rien. Mais tout à fait folle. Elle murmura. Ah oui, c'est étonnant. J'avais bien cru voir. Il haussa les épaules et déclara. Oh, puisque je suis levé, je vais m'habiller et faire une étude. Mais regarde, on a beau s'éveiller de bonne heure. On voit jamais l'étang, comme lapin corot. Oh, je sais pas comment il regardait. Et la montmartroise conclut. Ben, il avait du métier, mais il n'était pas sincère. Et elle ferma la fenêtre. En effet, il n'y avait plus sur l'eau cette lumière vaporeuse et argentée. Elle avait disparu avec les trois nymphes de Ville d'Avray.